Claude, j'appelle de Paris, mais je vis souvent dans le Morvan profond depuis 65 ans. J'ai entendu une émission sur les vaches, c'était passionnant d'ailleurs, mais je pense qu'il faudrait être nuancé dans ses jugements sur les agriculteurs, parce que notre région, donc le Morvan, est connue pour l'élevage, mais les conditions de vie ont bien changé. Les vieux, je mets les guillemets parce que j'en suis, avaient 3-4 vaches qu'ils connaissaient, effectivement, comme il a été dit dans l'émission, mais leurs enfants et petits-enfants, après avoir tâté d'autres métiers souvent, sont revenus à la ferme qui rapporte beaucoup plus. Organisés en GAEC, ils ont maintenant 400 vaches, plus ou moins bien traitées, vous imaginez. Croyez-vous qu'ils les connaissent individuellement, qu'ils leur donnent des noms, comme je l'ai entendu dans l'émission? Non, l'animal, et il en est de même des moutons, des volailles, etc. L'animal est un outil de production. Une vache vaut 1000 euros, en gros, je crois, en moyenne, et le bien-être animal est la dernière de leurs préoccupations. La chasse au pâturage existe, certes, et évidemment la prime à l'hectare justifie des manœuvres plus ou moins honnêtes entre eux, mais d'immenses stabules s'installent partout. Je ne doute pas que certains paysans correspondent à ce qui a été dit, et je l'espère, mais hélas, la réalité chez nous, en tout cas, est parfois tout autre. Merci pour vos émissions, que j'écoute attentivement. À bientôt.
Bonjour, c'est Sylvie de Bagnolet. Je voulais dire quelques mots sur la bergerie des Malassis à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, à l'est de Paris, au-dessus de Montreuil, qui est en grand danger et qui va disparaître. La bergerie, c'est un lieu ouvert à toutes et tous, sans condition, un lieu sécur pour les femmes, un lieu de tous les mélanges, un lieu de tous les âges, de toutes les origines, de toutes les couches sociales. La bergerie, c'est des arbres différents, de belles herbes, bonnes ou mauvaises, des oiseaux, des hérissons, des poules de la pleine terre. La bergerie, c'est des chèvres, des boucs, des brebis, des béliers. La bergerie, c'est des amis, du lien social, de l'odeur de ferme, une vue dégagée, un accès sur la rue, un lieu de paix sociale. La bergerie, c'est un lieu menacé par la mairie écolo et socialiste de Bagnolet, un lieu menacé par ceux qui font fi du bien vivre au Malassis, un lieu menacé par tous les promoteurs. Merci, la tête au carré.
Bonjour, c'est Patrick en banlieue de Lyon. Ben, je vous appelle pas pour vous féliciter, je viens d'écouter l'émission avec Guillaume Lecointre et je vous avoue que je suis très déçu par le niveau. Vous aviez des invités absolument remarquables qui avaient beaucoup de choses à dire et j'ai eu l'impression d'écouter du bavardage de café. On a l'impression que vous n'avez pas creusé votre sujet. En plus, le fait de poser des questions d'auditeurs un peu en vrac comme ça, débrouillez-vous avec. Et puis, comme d'habitude, souvent à la radio, l'essentiel du temps est utilisé par les gens qui dirigent l'émission pour poser leurs questions sans trop laisser de temps aux invités pour répondre. Je suis pas content. Mais tant pis, j'aime France Inter et j'aime la Terre au carré quand même. À bientôt, au revoir.
Bonjour, David de Fèche-l'Église. Eh bien, écoutez, je suis consterné et en même temps très amusé par l'interview du chasseur sur votre émission. Ce pauvre diable qui est arc-bouté sur ses acquis et qui manifestement était en mission commandée pour vous, Willy Schrein. C'était plus pathétique qu'autre chose, mais je pense que c'est à l'image de ce qui est devenu la chasse aujourd'hui. Voilà, eh ben, bonne journée à tous les non-chasseurs.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Et au sommaire de ce club de Noël, une primatologue star qui a bouleversé les connaissances sur les singes et leur culture. Une exposition à voir sur les animaux qui ont marqué de leur présence le château de Versailles. Et puis un album par le chanteur préféré des enfants qui est sorti à la rentrée, mais qui pourrait encore vous faire une idée de cadeau si vous en manquez à quelques heures du réveillon. C'est ainsi que dans quelques instants, nous accueillerons la primatologue britannique Jan Goodall, le commissaire d'exposition Nicolas Milovanovic et le chanteur Aldebert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Comme tous les vendredis, le journal des bonnes nouvelles et des curiosités de la planète.
Et je vous ai préparé une petite compile des meilleurs de l'année pour pas trop finir déprimé cette année 2021.
Ça nous fera du bien, on est preneurs. Voilà pour le sommaire de ce club qui est réalisé par Valérie Ayestaraï, qui a été préparé par Colin Gruel, avec à la technique aujourd'hui Laurent Baudouin.
une flamme orageuse, solitaire, héroïque, disperse dans l'océan ses poèmes organiques, l'azur fou de tes yeux m'a lancé un défi. Je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus X, ton cœur bat la chamade, zigzag les yeux bandés, j'échappe à l'embuscade, le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex, virus ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent. Virus Saint-Malo, rose pâle, virus se déplie, se réveille. Nul besoin de me contaminer. Saint-Malo, rose pâle, virus se déplie, se réveille. Virus X, virus X, virus X.
Et c'était Étienne Dao.
La Terre au carré sur France Inter.
Bonjour Jane Goodall.
Bonjour.
Jane Goodall, votre livre donc est intitulé Le Livre de l'Espoir. Est-ce que vous trouvez que notre époque manque d'espoir?
Oui, je crois qu'il y a un grand manque d'espoir, un sentiment d'impuissance. Et si nous perdons l'espoir, nous sommes perdus.
Jane Goodall, vous êtes donc l'invitée de La Terre au Carré cet après-midi. Vous êtes en duplex de Bournemouth en Angleterre à l'occasion de la sortie de votre livre, donc Le Livre de l'Espoir, qui paraît chez Flammarion en France. Et c'est Marguerite Capelle qui assure la traduction de cet entretien. Jane Goodall, j'aimerais commencer en vous faisant écouter la voix de votre ami Yann Arthus-Bertrand, qui était l'invité de l'émission il y a quelques jours et qui a laissé cette question à votre attention.
Ma chère Jane, on se connaît bien. C'est grâce à toi que je suis parti étudier les lions au Kenya. Comment tu fais pour garder cet optimisme, cette pêche incroyable en permanence? Tu tournes autour du monde à ton âge assez avancé et tout le temps avec cet optimisme, ce message d'espoir incroyable que tu envoies devant ces chiffres catastrophiques.
Well, I know that
je sais que nous sommes environnés par des messages pessimistes et négatifs, mais il y a en fait des gens formidables qui font des choses incroyables. Et j'ai des raisons d'espérer. L'espoir, ça signifie agir et non pas rester assis, rester passif.
Alors beaucoup de jeunes justement disent qu'ils ont été ou qu'ils sont très influencés par votre travail auprès des grands singes. Est-ce que ça vous touche d'être l'inspiratrice justement de plusieurs générations de scientifiques aujourd'hui?
C'est ma plus grande raison d'espérer, les jeunes. La jeunesse, le programme que j'ai lancé en 91, Roots and Shoots, Racines et Jeunes Pousses, qui concerne aujourd'hui des milliers d'enfants de tous les âges, depuis la maternelle jusqu'à l'université, dans tous les pays. C'est incroyable. Ils font des choses formidables et en fait, ce programme est fondé sur l'action. Ils aident des gens, ils aident les animaux, ils aident l'environnement. Et ils changent le monde. Et c'est ma principale raison d'espérer, ces jeunes-là.
Qu'est-ce que vous avez vu, Jane Goodall, le plus se dégrader depuis tant d'années que vous êtes sur le terrain, partout dans le monde, comme on le disait?
Eh bien, nous sommes confrontés à la double menace du changement climatique et de la disparition de la biodiversité. Et en plus, nous avons une pandémie. Et tout cela, nous l'avons provoqué en ne respectant pas le monde naturel, par notre manque total de respect. Nous avons oublié que nous faisions partie de cet environnement naturel, que nous en dépendions pour nous nourrir, pour l'atmosphère, pour l'eau, pour tout.
Jane Goodall, quelle est pour vous la découverte la plus importante que vous avez réalisée, qui finalement résumerait le mieux votre parcours de chercheuse auprès des grands singes ?
Le premier problème que j'ai rencontré, c'est qu'ils sont très timides et ils s'enfuyaient dès qu'ils me voyaient. Mais quand j'ai gagné leur confiance et que j'ai commencé à comprendre leur structure sociale qui est extrêmement complexe, quand j'ai compris, appris qu'ils étaient capables d'utiliser des outils, qu'ils avaient des liens très forts au sein d'une même famille, quand j'ai appris qu'ils étaient capables d'un véritable altruisme, d'une forme d'empathie, de compassion, j'ai aussi appris en même temps qu'ils avaient une face sombre, comme nous. En fait, ils sont plus proches de nous que n'importe quelle autre créature. Et la différence, c'est le développement de l'intellect humain. Et c'est ça qui rend très spécifique le fait qu'un être aussi intelligent détruise son seul habitat. Nous n'avons pas d'autre planète.
Vous dites que vos découvertes finalement tiennent au fait de ne pas avoir été façonné par le moule universitaire. Est-ce que c'est une façon de dire aux jeunes de ne pas aller faire d'études à l'université ?
Je pense que les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où je suis allée à l'université. J'ai eu beaucoup de chance. À une époque où les femmes n'avaient pas accès à ce type de domaine scientifique, et il n'y avait d'ailleurs qu'une poignée d'hommes qui allaient sur le terrain, Louis Leakey a pensé que les femmes seraient des observatrices de plus grande qualité parce qu'elles étaient plus patientes. Et il m'a choisie pour aller étudier les chimpanzés. Mais des situations comme celle-ci ne sont pas très fréquentes aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est impossible de se faire un nom en dehors de l'université. En réalité, c'est possible. Le meilleur exemple, d'ailleurs, ce sont ces gens qui sont dans le domaine de l'informatique. La plupart ne sont pas nécessairement allés à l'université. Mais pour aller sur le terrain, étudier les animaux, aujourd'hui, il est préférable d'avoir une forme de diplôme universitaire.
Et vous, aujourd'hui, quel lien vous avez encore avec les chimpanzés ? Est-ce que vous arrivez à aller les voir de temps en temps, aller les observer dans leur habitat ?
Avant la pandémie, j'allais deux fois par an à Gombe. Mais aujourd'hui, les recherches sont poursuivies par une équipe de formidables étudiants. Le directeur de l'Institut de recherche sur les chimpanzés, ce sont des jeunes qui ont des diplômes universitaires et nous avons un formidable groupe qui nous aide sur place et qui connaît très bien les chimpanzés. Et ils en parlent aux communautés environnantes, à la population du coin. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais eu d'attaque justement sur Gombe.
Et ça ne vous manque pas ?
Ce qui me manque, c'est le tout début. Ces premiers jours qui ont été montrés récemment grâce à des films, des vidéos, où je faisais vraiment partie de la communauté des chimpanzés. J'avais l'impression de faire partie de la famille, de les connaître. Il n'y avait que moi et les chimpanzés. Et je pouvais passer des heures dans la forêt tropicale. Ça me manque énormément de passer du temps dans la nature. Et je passe autant de temps que je le peux dans tous les environnements naturels que je peux, même si c'est sous le saule que j'escaladais quand j'étais petit.
Jane Goodall, dans le livre, justement, il est raconté qu'un jour, vous étiez assise par terre en Afrique. Un serpent venimeux s'est aventuré sur vos jambes. Mais pourtant, vous sentiez au fond de vous-même qu'aucun animal ne vous ferait jamais de mal. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Vous aviez déjà un instinct dès le début pour vous comporter de telle ou telle façon avec les animaux sauvages ?
Je crois que je suis née avec ce savoir, comment interagir avec les animaux. Une des raisons pour lesquelles Louis Leakey m'a choisi pour Gombe, c'est qu'il aimait bien mon attitude vis-à-vis des animaux. Quand j'avais rencontré justement un jeune mâle, j'étais toute seule. Et quand je me suis retrouvée face à un jeune lion, j'ai décidé de marcher très tranquillement pour sortir de la gorge dans laquelle je me trouvais. Et Licky a trouvé que j'avais très bien réagi face à ce jeune lion. Il était à une distance très proche. Avec le serpent, il n'y a que deux serpents qui sont réellement mortels dans le monde. Il y a le mamba noir et un serpent australien. Mais en dehors de ça, la plupart des serpents s'occupent de leurs affaires. Et c'est seulement si vous leur faites peur qu'ils vont vous attaquer. Donc si vous restez très calme, ils ne vous feront qu'un mal.
Jane Goodall, est-ce que la clé de votre succès finalement et de votre popularité, ça a été aussi de raconter, de savoir raconter des histoires? Parce qu'au-delà de la science, il faut savoir mettre en récit ses découvertes. Et ça, vous avez, vous, su accrocher le public comme ça?
Je pense que raconter des histoires, c'est la façon la plus importante, le moyen le plus important pour toucher les gens. Oui, il y a un message crucial à faire passer aussi par la science, avec les statistiques, parce qu'il faut des éléments de preuve. Mais si on veut toucher le public général, le grand public, celui qui n'est pas scientifique, il faut un récit pour les toucher au cœur. Et là, ils savent exactement de quoi vous parlez. Et même s'ils n'ont pas exactement de connaissances scientifiques, ils comprendront le message. S'il n'y a que des statistiques, il n'en restera rien. Ils oublieront. C'est pour ça que le récit est important. Je suis née avec cette envie d'écrire. Et j'écrivais des histoires dès l'âge de 5 ans. Ma mère les écrivait pour moi. Donc raconter des histoires, ça fait partie de ma vie depuis toujours.
Vous parliez, Jane Goodall, d'écriture. Il y a beaucoup aussi associé évidemment à vous, beaucoup d'images, beaucoup de photos. En début d'année, au mois de janvier, des scientifiques avaient un petit peu crié leur ras-le-bol des photos avec des singes en disant... En gros, les singes ne sont pas nos potes. Est-ce que vous pensez que les photos prises il y a plusieurs années où on vous voit à côté des singes, à faire des grimaces, à avoir une complicité évidente avec eux, sont encore d'actualité aujourd'hui et font encore du bien à la cause ?
Eh bien, nous faisons passer un double message. Quand j'ai commencé à étudier les chimpanzés, on ne comprenait pas du tout le comportement animal, le comportement des animaux sauvages. Donc, pour moi, c'était vraiment explorer et approcher comme une tribu de gens qui n'auraient eu aucun contact avec le monde extérieur. Donc, je suis arrivée avec des offrandes, comme les missionnaires. Moi, je leur donnais des fruits à ces chimpanzés. On n'avait aucune idée à l'époque du danger que pouvaient représenter les humains qui pouvaient passer des maladies à ces singes. C'était très courant dans ces premières études scientifiques du monde naturel d'attirer les animaux en leur proposant la nourriture. Et donc, dans nos messages aujourd'hui éducatifs, on essaie de clarifier le fait que ces photos sont historiques, qu'elles appartiennent au passé, qu'aujourd'hui, on a évolué, qu'on a compris et qu'il ne faut pas se faire photographier avec un animal sauvage. Parce que vous pourriez transmettre une maladie ou alors l'animal peut aussi vous transmettre une maladie. C'est comme ça qu'on a une pandémie aujourd'hui.
Jane Goodall, c'est quoi ce nouveau contrat social que vous proposez et qui fait justement le cœur de cet ouvrage sur ce livre de l'espoir ?
Ce que je dis, c'est qu'il est très clair que nous avons besoin de créer un nouveau lien avec les animaux et le monde naturel. Je ne peux pas dire comment il faut parvenir à cette nouvelle relation, mais nous savons ce qu'il faut faire. Nous devons interdire l'agriculture industrielle intensive et ses pesticides. Nous devons interdire l'élevage en batterie à échelle industrielle où on met énormément d'animaux dans des tout petits espaces. On doit mettre un terme au trafic des animaux sauvages vendus au marché noir. Nous devons convaincre les entreprises d'une façon ou d'une autre de réfléchir à l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'environnement quand ils font venir des produits d'un autre pays. Et la bonne nouvelle, c'est que ça commence à se faire. Certaines très grosses entreprises sont en train de changer leur comportement. Et pour insister sur ce que j'ai dit auparavant, il y a si un PDG d'une très grande entreprise explique qu'il est en train de changer sa façon de faire du business pour le rendre plus environnemental, plus respectueux de l'environnement, en partie parce qu'il comprend que les ressources naturelles ne sont pas infinies. Ensuite, les personnes, donc ça c'est ce qu'on commence à constater, et puis ce qu'on constate aussi, c'est que les personnes sont de plus en plus conscientes aussi et ne veulent plus de produits qui n'ont pas, qui ne sont pas produits de façon éthique. Et puis le troisième élément de changement, ce sont les enfants qui, à peine sortis de l'école, disent « voilà, vous êtes en train de faire du mal à notre planète ». Et tout ça, ce sont des exemples de la manière dont on peut réussir à toucher le cœur des gens et à les changer.
Jane Goodall, vous défendez aussi beaucoup la force de l'action individuelle en matière d'écologie. Vous avez d'ailleurs lancé cette année la campagne « Trees for Jane » et votre défi, c'est de planter 1000 milliards d'arbres d'ici 2030 dans le monde. Est-ce que quand même aujourd'hui, faire de la pédagogie auprès des consommateurs que nous sommes, en montrant l'impact par exemple de nos achats sur la biodiversité et les populations locales, ça n'est pas tout aussi important que planter des arbres.
Je pense que nous avons besoin de nous attaquer à ce problème de toutes les manières possibles parce que la situation est vraiment très sombre. Donc nous devons réfléchir à l'empreinte environnementale de nos achats, de nos actions. Nous devons réfléchir à la manière dont nous traitons les animaux parce que la science a aujourd'hui prouvé que les animaux ressentaient les choses, qu'ils avaient des sentiments, qu'ils ressentaient la peur, qu'ils ressentaient la douleur. Et en même temps, planter des arbres et protéger les forêts est aussi le plus important parce que c'est la manière de préserver la biodiversité. Et quand je disais un peu plus tôt que nous dépendons de la nature, nous dépendons en fait d'un écosystème qui soit sain, en bonne santé, parce que ça repose justement sur un mélange très complexe d'interactions entre des espèces végétales et animales. Et au fur et à mesure où les espèces disparaissent, ce sont les écosystèmes qui s'effondrent. Et on ne peut pas laisser ça se produire. Nous devons protéger les forêts. Et planter des arbres, les Chinois disent le meilleur moment de planter un arbre, c'est il y a 20 ans, pour qu'il absorbe le CO2. Mais le deuxième meilleur moment, c'est de les planter maintenant. Mais on ne se contente pas de les planter. Il faut aussi les entretenir, il faut aussi choisir les bonnes essences, il faut les planter au bon moment, etc.
Jane Goodall, qu'est-ce qui vous donne le plus de joie et de plaisir aujourd'hui dans votre vie ?
Eh bien, c'est quand je peux sortir. Ce qui me rendra très heureuse quand je pourrai de nouveau sortir de chez moi, ce sera de voyager, de retrouver mes amis. Mais malheureusement, avec la technologie, nous sommes obligés, quand nous nous parlons grâce à Internet, de regarder notre propre image sur l'ordinateur au lieu de pouvoir regarder la personne avec qui nous discutons. Et ça me manque beaucoup. C'est assez fou. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver mes amis en face à face, boire du vin rouge ou peut-être du whisky, nous amuser, raconter des histoires. C'est vraiment ce que je ne peux pas faire là maintenant.
Alors, vous souhaite
un joyeux Noël, puisque...
Très joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Merci beaucoup, Jane Goodall.
Merci à vous. Le livre de l'espoir donc vient de paraître en France aux éditions Flammarion. Et merci à Marguerite Capelle pour la traduction.
France Inter. La Terre au carré.
Et c'est l'heure de Camille Passauvert avec, pour ce réveillon de Noël, eh bien le tour, Camille Cronier, des bonnes nouvelles et des curiosités de la planète.
Et pour cette période de fête, oui, j'ai décidé de vous faire un petit récapitulatif, une sorte de compile de mes préférés. Et en plus, je m'adapte à la saison, vous allez comprendre.
Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens sur la montagne, là-haut il fait si bon.
Là-haut, dans les Alpes, au refuge de l'Aigle, perché à 3450 mètres dans le massif des Écrins, bâti en 1910, archi-isolé, hein, faut marcher 6 heures pour y arriver, et c'est de l'alpinisme de haut niveau. Refuge qui a passé une petite annonce à l'automne parce que ce refuge de l'Aigle cherchait son futur gardien ou gardienne, et voici le profil idéal avec Michel Rogeau, le gérant.
Il me faut quelqu'un qui connaisse très bien la montagne et très bien le milieu montagnard, et tous les dangers associés, et voilà, comment gérer la sécurité et comment conseiller les usagers. Il faut un gardien aussi qui soit vraiment capable d'accueillir les gens et de gérer leur hébergement, de gérer leur nourriture. Dernier point, il faut quelqu'un de très débrouillard qui soit capable de gérer un site isolé, parce que le site est complètement isolé, et donc de gérer toutes les problématiques liées à l'eau, à l'énergie, à l'électricité, et parer à toute éventualité de problème.
Donc on cherche un MacGyver alpiniste sympa.
Voilà.
Voilà, et concrètement, on est en poste 6 mois dans l'année, mais c'est un CDI. Les candidatures sont clôturées depuis plus d'un mois, c'est en cours. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien de temps est resté le dernier gardien ? 32 ans, un record. C'est 32 ans quand même, c'est que là-haut on est bien. Ouais. Je reste dans le thème avec un autre refrain bien connu, tiens.
Quand on reverrai-je, pays merveilleux.
Oui, Jean-Claude Duss, franchement, ça marche toujours. Pour vous parler, cette fois, télésiège et de cette initiative toute bête mais visiblement efficace prise par le Parc National de la Vanoise dans la station de Val Thorens, mettre des autocollants fluo sur les 85 télésièges pour éviter que les oiseaux de montagne, à commencer par le tétralyre ou le gypaète, ne les percute. Ça arrive assez souvent en fin de journée ou la nuit en particulier. Et après test en janvier dernier, sachez que ça marche plutôt pas mal. Une découverte maintenant assez incroyable, elle. Tendez bien l'oreille. Alors, vous n'avez aucune idée de ce que c'est,
non,
et
non,
c'est normal. Il s'agit d'un enregistrement sur cassette, hein, puisque ça date des années 80. Enregistrement non pas d'esprit, mais d'un canard, oui. Oh. Un canard qui dirait en anglais « pauvre imbécile » ou « saleté de nourriture », on ne sait pas trop. Ça voudrait dire « you bloody fool » ou « you bloody food ». Je vous fais réécouter, j'ai rapproché les sons. Vous entendez, you bloody fool ou you bloody food. Ouais. Ce canard s'appelle Reaper. C'était un mâle élevé dans une réserve naturelle en Australie et dont le soigneur était coutumier, visiblement, l'expression you bloody fool, que Reaper aurait donc appris à imiter comme un perroquet, sauf que ça n'avait jamais été vu jusque-là chez les canards. Et la chercheuse CNRS Valérie Dufour, éthologue spécialiste des capacités vocales de certains oiseaux, a lu ses travaux d'un éminent collègue néerlandais avec attention.
Ce qui va motiver les oiseaux à apprendre un son étranger, on va dire, c'est l'intérêt de ce son. Et là, c'est pas étonnant que la porte qui s'ouvre et le soigneur qui dit « bloody food » ou « bloody food » peut-être, l'arrivée du soigneur, c'est quelque chose pour lui de très très signifiant. Donc, il y a peut-être attaché une très grande attention et ça s'est traduit pour lui par le fait d'apprendre et de vocaliser ce que dit le soigneur. S'il dit toujours la même chose, ben voilà, le canard, il a appris.
Mais jamais elle n'aurait pensé que ce soit possible.
Ah, c'est complètement exceptionnel. Ce qui est vraiment très beau dans cet article, c'est le fait qu'il soit capable d'imiter la voix humaine. Parce que ça, on ne pouvait pas le soupçonner, en fait.
You bloody fool.
En canard, donc.
Voilà, en canard. En voilà un qui ne jure pas, mais jubile plutôt. Le plongeur et photographe Laurent Balesta, récompensé en octobre par le prestigieux Grand Prix du Wildlife Photographer of the Year, le plus grand concours de photos animalières. Jamais un Français n'avait été distingué. Et aucune photo sous-marine depuis 60 ans. Laurent Balesta a pu immortaliser dans la passe sud de Fakarava, en Polynésie française, le moment très rare et furtif d'une ponte de mérou.
L'espèce en elle-même n'a rien d'exceptionnel, sauf que tout à coup, ce gros poisson qui est solitaire le reste de l'année, il se concentre dans des quantités incroyables. C'est plus de 18 000 mérous sur une surface qui n'est pas plus grande qu'un terrain de foot, vous voyez. Et là, il se concentre à attendre la pleine lune du mois de juin en général, ou du mois de juillet, ça dépend des années, et attendre le moment où ils vont tous se reproduire en même temps. Et cette reproduction collective, elle va durer qu'une demi-heure à peu près, une demi-heure dans l'année. Et pendant cette demi-heure-là, les femelles ne pondent qu'une seule fois. L'énorme masse d'œufs qu'elles ont dans l'abdomen, elles les expulsent en une seule fois et en une fraction de seconde, véritablement. C'est pas un abus de langage, ça dure moins d'une seconde. Et donc tout ça se passe à une vitesse folle, dans un laps de temps très très court, sous la pression de 700 requins gris qui sont là autour et qui les dévorent en même temps. Alors il y a ceux qui viennent donner la vie au risque de la perdre. C'est vraiment un climax dans la survie, quoi. C'est fantastique.
3000 heures de plongée pendant 5 ans et 75 000 photos pour obtenir donc ce nuage d'œufs en forme de point d'interrogation. Magnifique. Enfin, après les bronzés font du ski tout à l'heure, encore une bonne référence ciné, mais j'étais obligée, là, vu la dernière histoire dont je vais vous parler.
Votre cola, avec ou sans patate?
Sans patate.
Voilà, sans patate, pour annoncer non pas un héritage, mais ce qui serait la plus grosse pomme de terre du monde. 7,8 kilos, découverte en Nouvelle-Zélande par un fermier du nord du pays. Il raconte l'avoir piqué avec sa fourche après avoir creusé, sorti de terre, et là...
What's going on here? What is it? It's a potato.
Voilà, potato, surnommé Doug, hein, le petit nom de cette patate géante. Son devenir, pas de frites ou de purée,
ah
non.
Bon.
Since I'm a bit of a,
comme je suis brasseur amateur,
I'm thinking about a special vodka.
Une cuvée de vodka spéciale, ben tiens.
Ouais.
Allez, santé et joyeux Noël, évidemment, à tous.
Et c'était le journal des bonnes nouvelles de Camille Cronier.
France Inter. La Terre au carré.
Allez, changement de cap, on part à l'Est. Aldebert nous attend à France Bleu Besançon. Ça va, Aldebert ?
Très bien, je vous écoute attentivement.
Bon, Besançon, c'est votre ville d'enfance, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Moi, je suis né à Paris et j'ai débarqué ici à l'âge de 3 ans. Donc, j'ai vraiment toute mon enfance ici.
Ouais, allez, dans un instant, on va parler de ce titre qui a retenu évidemment notre attention, extrait de votre dernier album Enfantillage 4. Titre Assis soit-il, avec Peter Garrett. On écoute le titre tout de suite et on en parle juste après. Aldebert, vous êtes l'invité de La Terre au Carré.
Dans la vie d'avant, des abeilles sur nos desserts et les journées sans écran. Pas de plastique à la mer, de la glace, des ours blancs, de la neige sur nos hivers.
Wherever we look, the forest retreats, the coral is bleached by an endless sun. The ocean's so high, the jungles are quiet. Is it too late to say that nature's undone?
Que s'est-il passé? Allez, rangeons nos mouchoirs. Écoutons, la forêt poussée, mettons que les arbres choirent. Tellement de cervelle, puisque l'on cible la branche sur laquelle on est assis. Lentement le temps passait, sans futile connexion, parfois même on s'ennuyait.
I hear the birds singing out, come protect me if you care, if you dare. If we let our hearts beat louder, and if our voices get so much stronger.
Where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you.
Oh là là, efficacité redoutable pour ce titre, Ainsi soit-il, Aldebert, avec Peter Garrett et Greta Thunberg, s'il vous plaît. Donc là, vous avez le casting d'enfer quand même. Hein.
Ben oui, c'est incroyable, c'est un casting évidemment auquel je ne m'attendais pas du tout. Moi, j'ai proposé cette chanson à Peter Garrett, c'était vraiment une bouteille à la mer. J'ai eu la chance de le rencontrer, ça a duré une minute notre rencontre au sortir de scène. Ouais. Et j'y croyais pas une seconde, je lui ai donné un album d'enfantillage, je lui ai dit voilà, je prépare une chanson qui est en cours d'écriture sur l'écologie, qui est un petit peu rock'n'roll et un petit peu vénère dans le ton, et je vous entendrai bien là-dessus, et j'y croyais pas une seconde. Il est reparti avec le disque, je me disais ouais. Qu'il allait peut-être caler un meuble avec ce CD, mais il m'a rappelé, et puis il connaît Greta Thunberg. Ouais. Il a été lui-même ministre de l'Environnement, comme chacun sait.
Oui, il n'a pas laissé un grand souvenir d'ailleurs dans ce domaine. Hein.
Non, non, ça a été assez bref, mais c'est quand même pas rien. Pas rien. Et du coup, il m'a rappelé, et on a pu enregistrer la chanson à distance, ce qui est incroyable. Et je me retrouve à faire des chœurs avec Peter Garrett, le groupe que j'avais étudié en cinquième.
Oui, alors pour ceux qui ne se souviennent pas de lui, parce que bon, on n'a pas tous forcément l'image de ce grand chauve en tête australien, Peter Garrett, quand même, c'est ça. C'est juste histoire de se faire plaisir, Aldebert, hein. Mais il fallait quand même le rappeler.
Mais
hein.
Ça fait super. Ouais.
Je pense que c'est la chanson au monde sur laquelle je chante le plus en yaourt. Je n'ai jamais compris les paroles. Aldebert, par rapport aux paroles, justement, Ainsi soit-il, c'est qui ils? C'est les décideurs? C'est les climato-sceptiques? C'est les dirigeants?
Oui, c'est tout ça. C'est tout. C'est un peu la figure des adultes qui freinent les choses, qui freinent les avancées et qui freinent le réveil des mentalités. Donc c'est un peu ça. Puis c'est aussi un petit clin d'œil à la locution religieuse Ainsi soit-il, hein, qui exprime le souhait de ce qu'on voudrait, de ce qu'on vient d'énoncer. Donc évidemment c'est pas une prière, mais c'est de se dire j'espère qu'on arrivera à ne pas faire tomber cette branche sur laquelle on est assis.
Ouais, il y a quand même une certaine nostalgie hein, dans ce titre, celle d'un temps passé, de la vie d'avant, où il y avait des abeilles, des ours blancs, de la glace. C'est affreux finalement quand on y pense. Hein.
Ouais.
On en a
oui,
encore.
C'est, hein. C'est vrai qu'il y a puis cette possibilité qu'on avait de s'ennuyer, on a l'impression que ça s'efface aussi un petit peu. Ça, on le voit chez nos enfants maintenant.
Ouais. Est-ce que les petits sont de vrais militants de la planète aujourd'hui? Et vous qui chantiez déjà l'écologie finalement il y a plusieurs années avec Monsieur Tout-le-Monde, est-ce que là aussi vous avez vu les enfants changer sur le sujet?
Alors j'ai l'impression, c'est peut-être un peu utopique, mais moi je les vois vraiment comme des acteurs d'un certain ralentissement. Je le vois chez mes enfants parce que je les vois très sensibilisés sur la pollution, sur tout ça. Donc je pense qu'ils travaillent beaucoup ça aussi à l'école. Et je pense qu'ils sentent ce qui se passe, en fait. Ils sentent cette urgence.
Allez. Tous, parce que est-ce qu'il n'y a pas un moment, Aldebert, dans l'âge où quand on est enfant, on est sensibilisé à ça, quand on est adolescent, certains restent sensibilisés, mais beaucoup d'autres, malheureusement, adolescents, jeunes étudiants, oublient un petit peu, quoi, avec d'autres préoccupations, on va dire.
Peut-être. Alors moi, j'ai envie d'y croire. Je me dis qu'aujourd'hui, si on voit, par exemple, je pense à une vidéo que j'ai vue récemment sur YouTube qui était incroyable. On voit un type en voiture qui s'arrête et qui vide son cendrier, le cendrier de sa voiture, par terre comme ça sur la route.
Mmh. Ouais.
C'est quelque chose qui, dans les années 80, pouvait passer, je pense. Et aujourd'hui, quelle que soit la génération, quand on voit ça, on est complètement horrifié. C'est pas possible. Moi, j'ai la chance d'être peut-être plus sensibilisé parce qu'on habite à la campagne, sur une petite montagne, et on a la forêt juste à côté. Donc les enfants, ils sont connectés tout le temps à la nature. C'est génial. Une famille parisienne qui a vu sur l'Apple Store, effectivement, c'est peut-être plus compliqué.
Ouais. Je parlais de Monsieur Tout-le-Monde. Ça, c'était 2008, Aldebert, ce titre, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'était le premier enfantillage. Oui.
Ouais, on va en écouter un petit extrait pour voir justement si la façon de chanter l'écologie a changé chez vous.
Pourquoi dans les rivières on trouve des chaussures, à l'orée des forêts, des montagnes d'ordures, des usines qui crachent des tonnes d'hydrocarbures? Comment font les oiseaux, coquillages et poissons, quand ils ont sur la peau des kilos de goudron, si la mer n'est plus bleue mais marron? Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de la planète bleue?
Voilà, Monsieur tout le monde en 2008. Il y a beaucoup de choses qui a changé pour vous en cette décennie, quasiment, même plus.
Bah oui, puis pas en bien à ce niveau-là, quoi. Donc je pense que ça s'entend aussi dans le ton de cette chanson, et Peter Garrett il participe aussi évidemment, parce qu'il y a un côté peut-être plus revendicatif, un côté plus urgent encore, plus en colère.
Ça veut dire quoi de vivre dans les bois, ou en tout cas au sommet d'une montagne comme vous, Aldebert? C'est quoi votre environnement? Parce que ça nous fait rêver.
Alors moi j'ai une petite maison comme ça qui domine le premier plateau du Houdou, donc j'ai un horizon, ce qui est déjà incroyable. Ouais. J'ai beaucoup de chance, et on va très souvent avec les enfants en forêt, donc c'est chouette. On essaie de bien se comporter par rapport à la pollution, parce que dans la forêt on trouve, comme j'ai dit dans la chanson de cet enfantillage 1, on trouve des chaussures, on trouve des bouteilles et tout ça, donc on va les ramasser, et puis on essaie de faire des efforts. Moi je leur fais des blagues parce qu'ils me demandent est-ce qu'on peut mettre ça dans le compost et tout. Je dis ouais, vas-y, tu peux mettre des piles dans le compost, et tu peux mettre des pneus aussi. Alors on fait des blagues et tout, mais je crois qu'il faut pas dramatiser, il faut pas les culpabiliser. Je pense qu'on a plutôt à s'excuser, nous les adultes, c'est ce que je dis dans la chanson.
Allez.
Mais entretenir ce truc-là, ouais.
Pendant vos concerts, où évidemment ça fait toujours un carton plein d'enfants avec leurs parents, est-ce que vous en profitez aussi sur scène, au-delà des paroles de certaines chansons, pour passer des messages, en particulier pour la planète? Ou est-ce que vous allez le faire, en tout cas dans la tournée qui vient?
Oui, ça peut arriver. C'est vrai que l'entre-chanson, c'est un petit moment comme ça important pendant lequel on peut passer des messages. Je pense à une chanson que j'avais partagée avec Grand Corps Malade sur la condition animale, qui s'appelle Jolizo, et qui est une espèce de traumatisme que moi j'ai vécu gamin, en allant voir ces animaux dans des cages trop petites, et c'est un cauchemar total encore maintenant. Et on peut glisser aussi c'est notre vision à nous, puisqu'on a cette tribune sur scène.
Bah oui.
et la partager avec les enfants, bien sûr. Ouais.
Allez, Aldebert, Enfantillage 4, c'est ce nouvel album qui cartonne, avec l'ami Guillaume Meurice qui figure d'ailleurs sur un titre, Mythomane, et puis en ce moment, ouais, on entend aussi ce titre Double Papa avec Calogero, et donc ce titre avec Peter Garrett pour parler de la planète. Merci infiniment.
I feel like you never really cared.
Good, c'était Arlo Parks.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Folle, mythe, blonde, pone ou nonne, qui aurait pu croire que les chiennes préférées de Louis XIV aient leur propre portrait ? Passionné de chasse, comme tous les rois, Louis XIV pratique la chasse au vol, à tir ou à court, un jour sur trois en moyenne, dans le vaste parc de Versailles et des nombreuses résidences royales. Surtout, il adore les chiennes qui l'accompagnent à la chasse à tir. Chaque soir, après le coucher public, le roi Soleil se relève, entre dans un cabinet proche de sa chambre où se trouve leur niche douillette et leur donne lui-même à manger de petits biscottins préparés spécialement par la bouche du roi.
Voilà, extrait d'une exposition qui avait lieu en 2016 à Arras, au Musée des Beaux-Arts, Les Chiens du Roi, dans une exposition Le Château de Versailles en 100 chefs-d'œuvre, puisque nous découvrons eh bien, en ce moment les animaux du roi au Château de Versailles. Ça, c'est jusqu'au 13 février prochain. Nicolas Milovanovic, vous êtes conservateur en chef au Musée du Louvre, responsable des peintures françaises du XVIIe siècle et commissaire de l'exposition Les Animaux du Roi. Ça veut dire que le Louvre et Versailles s'entendent alors?
Eh oui, absolument. De temps en temps, on travaille en commun, Versailles ouais. Et Louvre, voilà.
300 chefs-d'œuvre qui font revivre le bestiaire du château. Les animaux sont les grands oubliés, visiblement, de l'histoire de Versailles. C'est la première expo sur le sujet.
Oh, absolument. Première fois qu'on traite le sujet animal à Versailles, alors que les animaux étaient absolument partout présents. Versailles grouillait de vie animale. On l'imagine plus aujourd'hui lorsqu'on visite le lieu. Donc voilà, c'est une manière de faire revenir toutes ces bêtes à Versailles.
Quelles bêtes alors? Quels animaux il y avait sous Louis XIV?
Mais absolument tout. Bah, tout, puisqu'il y avait les animaux de compagnie, donc les petits chiens, les petits chats, les haras, les perruches, les petits singes vervets, mais aussi, à la ménagerie, il y avait des animaux exotiques. Donc, vous aviez des éléphants, vous aviez des quaggas, des casoars, des rhinocéros. Donc,
des rhinocéros?
Des rhinocéros, absolument. Voilà. Donc, tout le monde
dans
animal.
Le château.
Alors, pas dans les appartements, vous imaginez, ouais. Mais néanmoins, à la ménagerie, qui est la ménagerie, c'est le premier zoo moderne, que Louis XIV, dès le début de Versailles, c'est à, presque avant que Versailles n'existe, en tout cas au tout premier temps, il veut une ménagerie, il veut des animaux exotiques parce qu'il est fasciné, le roi est fasciné par la beauté animale, et donc il veut qu'on fasse venir des bêtes du monde entier pour la beauté animale.
Ils étaient bien à Versailles, tous ces animaux exotiques,
alors,
là?
Alors ça, bon...
La SPA n'existait pas à l'époque, pour aller faire un petit tour.
La SPA n'existait pas. Hein. Les premières sociétés protectrices, c'est début 19e, donc c'est un peu plus tard. Néanmoins, la ménagerie de Versailles avait quand même, étant le premier zoo moderne, avait quand même l'intérêt pour le bien-être des animaux, c'est-à-dire qu'on avait aménagé un lieu inouï, avec un salon octogonal, c'est-à-dire qui permettait d'avoir une vue panoramique sur les différents enclos, et les enclos étaient aménagés pour que les animaux se sentent bien. C'était gazonné, sablonné, il y avait des ombrages, il y avait des points d'eau pour les oiseaux aquatiques, donc il y a quand même un souci début, on dirait la préhistoire, les prémices du souci du bien-être des animaux.
Mais là, ça tourne que autour de Louis XIV, ou vous avez abordé
toute la monarchie?
Non,
alors tous les rois, tous les rois versaillais, c'est-à-dire Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, on va jusqu'à la Révolution. La Révolution, vous le savez, les animaux de Versailles eh bien, ont été transférés à Paris, à la nouvelle ménagerie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Ouais. Donc voilà, cette histoire-là qu'on raconte.
Donc il y avait une vie animale à la cour, et ça devait être quand même un sacré bazar, non, là-dedans?
Absolument, absolument. Ouais. Vous imaginez pas à quel point, par exemple, lorsque les chats investissent Versailles, ça c'est au 18e, c'est Louis XV qui est le roi passionné de chats, il y en a absolument partout.
Oh là là.
C'est-à-dire que si une dame de la cour pose sa belle pelisse sur un pliant, eh bien, les chats vont venir se faire les griffes dessus.
Et
donc elle va se plaindre à la reine.
Ouais, mais la reine protégeait les chats.
Ah, absolument, c'est la reine va la rembarrer puisqu'elle préfère son chat au courtisan. Et donc elle lui dit, mais madame, ne mettez pas votre pelisse n'importe où.
Mais ouais. Alors si vous savez tout ça, c'est parce qu'il y a des traces partout dans des écrits, sur des peintures bien évidemment. Comment on sait qu'il y avait des rhinos
voilà,
à Versailles?
Là, c'est pour ça, il faut venir voir l'expo. C'est-à-dire qu'on a rassemblé toutes les œuvres, les peintures qui racontent cette histoire. Il y a aussi les mémorialistes, évidemment, qui donnent les anecdotes très vivantes. Donc il y a vraiment tout cet univers qu'on essaye de rassembler et de proposer au public au château de Versailles.
Et au niveau de l'hygiène, alors ça donnait quoi? Parce qu'on imagine tous ces animaux. D'ailleurs, on sait qu'à Versailles, c'était pas super propre. Hein. Il fallait vraiment avoir
alors,
le cœur solidement attaché.
Vous mettez le doigt sur le point faible, évidemment.
J'imagine tous ces chats.
L'hygiène n'était pas excellente, mais c'est pas que les animaux qui sont en cause.
Mais exactement. Oui, absolument. Les pots de chambre valsaient un peu partout derrière
alors,
les rideaux.
À propos de pots de chambre, je vous prends au mot. Vous savez ce qui se passe avec le pot de chambre de Louis XVI?
Non.
Eh bien, il y a un petit chat, parce que je vous ai dit que les chats étaient partout. Vous connaissez ces animaux-là, hein, ils prennent le pouvoir et donc il y a un petit chat qui s'était mis dans la chaise percée, donc dans le pot de chambre de Louis XVI. Et Louis XVI s'est pas rendu compte. Et donc, il s'assoit tranquillement pour vous imaginer pourquoi.
Il était très
distrait. Et le chat, à un certain moment, est incommodé et commence à griffer le derrière royal. Ce qui, évidemment, à Versailles, ne se fait pas trop. Alors, le roi se jette au rideau. C'est le comte des Aix et le valet de chambre de Louis XVI qui le raconte. Et l'histoire, elle est évidemment à mourir de rire. Et à Versailles, il y a le Louvre aussi, puisque, étant jeune, se préparant à la chasse, voilà, dans les forêts royales, eh bien, quand il était très jeune, c'est son médecin, Hérouard, qui a tenu un journal jour par jour. Il raconte un peu la vie du jeune Louis XIII, qui est une vie avec les animaux. Eh bien, à certains moments, il chassait, il se préparait à la chasse, et c'était dans la grande galerie du Louvre. Vous voyez, la grande galerie, la galerie au bord de l'eau, au bord de la Seine, eh bien, on lâchait des renards, et le roi, avec ses chiens, les poursuivait.
Au Louvre. Au Louvre. Incroyable.
Dans la grande galerie.
Justement, par rapport à la chasse, quelle proportion, là, dans l'exposition, il y a pour les animaux, que ce soit les chiens ou les animaux chassés? Et surtout, c'est un sujet, bon, assez clivant, la chasse, on le sait. Est-ce que l'exposition prend entre guillemets un peu parti à travers les peintures ou pas du tout?
Alors oui, l'exposition, alors c'est pas une expo engagée, le terme ne serait pas juste, mais néanmoins l'exposition a pour but de donner le contexte historique de la relation homme-animal finalement. Et c'est quoi cette relation? C'est une théorie qui s'impose, qui est la théorie cartésienne, qui est absolument terrible. Descartes est un immense génie scientifique, mais néanmoins sa vision des animaux est terrible. Il considère que les animaux sont des machines. Et il y a un monde entre les animaux et les hommes. Les animaux n'ont pas d'intelligence, pas de sensibilité, pas d'émotion. Et Versailles va être un lieu de résistance à cela. Et donc Versailles va s'opposer à cette vision des animaux-machines. Et ça, c'est quelque chose qu'on explique dans l'exposition.
Ouais. Alors, il y avait aussi de la taxidermie, parce que ces animaux, finalement, une fois qu'ils mouraient, qu'est-ce qu'on en faisait alors?
Alors là, ils avaient une vie post-mortem, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils participaient à la gloire scientifique du roi, puisqu'ils faisaient l'objet de dissections. Dissections qui servaient ensuite à des études d'anatomie comparée. C'est Claude Perrault qui est le grand maître de ça. Il y avait des dissections publiques qui attirait mais des foules, vous imaginez pas, c'était un spectacle théâtral, on montait des théâtres d'anatomie, on disséquait ces animaux, il y avait des stars, alors je parlais de Perrault, mais aussi Duvernay, Joseph Guichard Duvernay, qui avait le talent oratoire d'attirer ces publics, et ensuite on éditait ça à travers des ouvrages, les mémoires pour servir l'histoire naturel des animaux de Perrault, et qui participait à la gloire du roi dans le domaine scientifique.
Et Louis XV avait son éléphante, hein, comme ça, qui a été
absolument l'objet. Louis XIV et Louis XV. Et pour finir sur les dissections, lorsqu'on dissèque l'éléphante de Louis XIV, eh bien ça se passe où? Ça se passe, alors en général, les dissections se passaient à Paris, Académie des sciences, puis Jardin du roi qui devient le Muséum national d'histoire naturelle. Mais quand, pour l'éléphant, comme il est, vous voyez, corpulent, c'est une immense bête, on le fait à Versailles, on monte un podium, un théâtre, et le roi vient lui-même assister à la dissection. Je vous ai dit que c'était des spectacles. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il trouve pas l'anatomiste. Il dit, mais il est où? Et l'anatomiste, à ce moment-là, qui était Duvernay, surgit du ventre de l'animal, parce qu'il était entièrement immergé, vous voyez, dans les entrailles de l'éléphante, et il se présente, me voici, sire, tout dégoulinant.
De tripes. Et justement, les animaux, une fois qu'ils étaient morts, que ce soit l'éléphante ou des chats, tous ces centaines de chats, j'imagine, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'il y a une sorte de cimetière? Est-ce qu'ils étaient brûlés? Est-ce qu'ils étaient envoyés je sais pas où?
Alors ça, on n'a pas malheureusement on n'a pas la trace de l'histoire post-mortem des animaux, mais on sent qu'il y a, à travers notamment les œuvres d'art, comme dans l'exposition, une relation très étroite, la sensibilité au monde animal. Vous savez, on sait aujourd'hui combien on peut être attaché à son animal de compagnie. C'était pareil à l'époque. Il y a la princesse Palatine, par exemple, grand personnage de la cour de Versailles, qui était la belle sœur de Louis XIV. Elle est passionnée de ses chiens, et lorsque ses chiens meurent, elle le raconte, c'est une grande épistolière. Elle a écrit 40 000 lettres pendant sa vie. Et on voit que c'est une douleur infinie, qu'elle raconte tellement bien lorsque l'une de ses chiennes adorées meurt. Donc il y a vraiment déjà cette évolution des sensibilités et ce lien homme-animal, c'est les prémices de la préhistoire.
C'est Louis XIII qui préférait sa chienne ou son chien à son père, le
absolument,
roi.
Absolument, voilà, hein, c'est ce que raconte son médecin. Absolument, on lui disait, mais sire, voilà, ne préférez pas votre chienne préférée à votre papa, le roi. Donc vous voyez, ça montre en fait, c'est quand même, ça a un sens, c'est une anecdote, ça a en même temps un sens, ça montre vraiment la proximité des princes avec leurs animaux.
Et c'est une exposition à voir donc au château de Versailles jusqu'au mois de février prochain. Vous souhaite du succès parce que vous avez eu aussi des mois difficiles comme tout le monde.
Absolument.
Mais le public revient, et ça c'est une expo familiale donc à découvrir. Merci beaucoup Nicolas Milovanovic d'être venu nous en parler. Et bon week-end, Madame Cronier.
Et bon week-end, et on rappelle le numéro du répondeur. Vous pouvez toujours nous appeler 24h sur 24, 01 56 40 45 45.